Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes vendredi 17 mars. Bonne journée, nos amis de la communauté irlandaise. La date officielle, c'est aujourd'hui. Et le défilé, comme disait Marc, aura lieu dimanche dans les rues de Montréal. En fait, c'est la rue Sainte-Catherine. On va partir de Dufort, ça va se rendre jusqu'à Peel, Metcalfe. Mais évidemment, il y a des enjeux tout autour. Alors, si vous n'êtes pas obligé d'aller dans le coin, vous ne voulez pas assister comme ça au défilé ou participer, c'est évidemment un secteur à éviter pour dimanche. Maintenant, pour la météo, ben c'est une journée de pluie, c'est pas compliqué. Alors, on a du temps couvert ce matin, autour de 2 degrés. La pluie va commencer autour de midi. Le maximum aujourd'hui, 4 degrés. Puis il va pleuvoir comme ça toute la journée, ce soir, puis ça devrait cesser au cours de la nuit. Et pour demain samedi, soleil, nuage, 2 degrés. Et pour dimanche, moins 3, avec faible risque d'averse de neige. Mais encore là, il n'y a pas d'accumulation. Peut-être quelques flocons, un peu comme on a vu durant la semaine. D'abord, je veux dire un mot ce matin sur le drame de Amqui. C'est toujours un peu ce qui arrive. Les premiers jours sont extrêmement intenses. Hier, visite du premier ministre, des chefs de l'opposition. M. Legault qui a parlé de l'importance de déployer des ressources additionnelles pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Puis il faut évidemment faire attention à l'étiquette santé mentale. Il y a des gens qui ont des problèmes tout court, là, et qui n'ont pas d'aide. On mettait en lumière hier matin les difficultés en région de trouver des ressources. C'est vrai en ville, mais c'est peut-être encore plus vrai dans certains coins du Québec où il faut faire des kilomètres avant de trouver un spécialiste ou un professionnel qui peut nous aider. Donc, les gens se sont rassemblés hier et c'est une espèce de veillée à la chandelle. Il y aura événement religieux aujourd'hui. Et la communauté se serre les coudes. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais je pense que c'est quand même vrai. Et on verra comment les procédures vont se dérouler pour ce qui est de l'accusé. Je vous disais hier matin avoir visionné quelques-uns des enregistrements qu'il a mis en ligne. Là. Et on le voit que c'est quelqu'un là qui va pas bien. C'est quelqu'un qui s'abreuve à toutes ces théories du complot. Et les façonne un peu, beaucoup à sa façon. Alors, évaluation à faire de son état, si on veut. Puis il n'y a pas. Puis je pense que comme le gars de Laval, on ne saura pas pourquoi vraiment ils ont posé des gestes de cette nature. Puisqu'on regarde un peu, c'est important de le faire, les régions. Rouyn-Noranda, ce qui se passe là, c'est intéressant aussi, là. Alors, on va déménager, on vous le disait plus tôt cette semaine, 200 familles. Ça va prendre 2 ans, 3 ans, peut-être même 5 ans. Et la ville va donc prévoir des aménagements avec le gouvernement du Québec et la compagnie doit payer cette facture-là et surtout là aménager une zone verte un peu tampon. Pourquoi? Parce que c'est un endroit qui est exposé aux émanations toxiques de l'usine. Puis là, il y a bien des citoyens qui sont pas contents, qui ont pas envie de déménager. Et on peut comprendre que t'as pas le goût de te faire tasser plus loin, mais en même temps, c'est un endroit qui ultimement peut t'amener des problèmes de santé. Puis là, je le sais qu'à Rouyn-Noranda, ils sont assez divisés. Il y a des gens qui regardent puis qui sont pas touchés directement, là, qui habitent dans des secteurs plus loin. Pas si pire que ça, puis ça a toujours été de même. Puis ce sont des bons emplois. Puis la compagnie, comme toutes ces multinationales, ben disent là, on va un peu plus vite que le plan qui était prévu. Et ben sinon, on pourra pas opérer. Puis c'est toujours un peu la menace d'une fermeture qui plane. Alors, ce qui est clair, c'est que ça va prendre 5 ans pour ramener la moyenne annuelle à 15 nanogrammes d'arsenic par mètre cube d'air. Mais je rappelle que c'est 5 fois plus que ce que la norme de la santé publique prévoit. Fait que même si on fait des efforts, ça va prendre du temps, mais on n'a pas encore et on n'atteindra pas encore la norme qui est établie par les autorités. Un mot aussi sur la Société d'assurance automobile du Québec. Le ministre Éric Kerr, là, qui, je dirais, s'est couvert de ridicule cette semaine. Puis ça a commencé un peu la semaine dernière en disant, ben vous savez, moi je suis pas responsable de ça, j'étais ministre délégué, ça fait juste un an que je suis ministre, point, du virage numérique. Et on n'est pas responsable, c'est la Société d'assurance automobile du Québec. Ce qui est vrai, là, le maître d'œuvre de la patente, c'est la Société d'assurance automobile. M. Kerr est arrivé avec cette notion pour authentifier, donc rajouter quatre éléments d'information, de preuve, pour que ça fonctionne. Et ça, c'est lui qui l'a fait. Puis des infos à l'interne disent que ça s'est fait, peut-être pas de dernière minute, mais pas loin. Et qu'il y a probablement une part de responsabilité dans la débâcle. Puis là, après s'être fait questionner par l'opposition, puis après avoir fait le genre, comme on dit, le fendant comme il était dans l'opposition, ben là, il est obligé d'avouer que c'est un fiasco. Puis que c'est pas de sa faute, les feux étaient verts, mais tu sais, verts, pourquoi foncer dans le mur? Et c'est ça qui est arrivé. Ce qui n'enlève pas la responsabilité de la SAC, là. Puis de son PDG, puis de son conseil d'administration. Puis des exemples, en voulez-vous? Les apprentis conducteurs et les écoles de conduite se sont trouvés à Gatineau, je vous donne l'exemple, 185 personnes qui avaient un rendez-vous à 14h20. Ça se passe plus précisément à La Chute pour un examen de conduite. Évidemment, il y a des gens qui sont repartis bredouilles, là. On les a tous mis à la même place. Je vous racontais l'histoire d'une mère, c'était un permis de scooter. C'est sûr que le petit n'a pas tous les documents requis. Ben là, il faut qu'il patauge pour trouver un rendez-vous. Je sais qu'il y a des affaires qui marchent, mais il y a un paquet d'affaires qui ne marchent pas. Puis je vous souligne que depuis quelques jours, la Société d'assurance automobile, qui paye des firmes comme Tact pour les conseiller, se cache. Et répond pas aux questions. C'est quoi le portrait actuel? Et c'est un peu ce qui me rend souvent impatient. Ce sont des sociétés publiques, c'est une compagnie d'assurance d'État qui s'engage une firme de communication pour ne pas communiquer. Et je ne sais pas combien ça leur coûte. Puis ils ont pourtant des gens à l'interne en masse pour gérer ça. Mais c'est l'omerta. Comment va le patient? Une question aussi niaiseuse que ça. Quels sont les degrés d'amélioration dans le cafouillage? Le ministre répond pas. La Société d'assurance automobile répond pas. Puis eux autres, ils prient de bon Dieu là, en disant « Hey, c'est vendredi. Les gens vont oublier ça. On va passer à un autre appel. » Très bien. Parlons des menaces de mort qui ont augmenté au sujet de M. Trudeau. La presse nous dit ce matin que le nombre de ces menaces qui visent le premier ministre a doublé en 2022 selon les informations obtenues par la loi là sur l'accès à l'information. Évidemment, c'est toute la période du fameux convoi de la liberté. C'est aussi la période où on a utilisé la loi sur les mesures d'urgence. Puis un côté un peu, je voulais dire jusqu'à un certain point, naïf. On est un peu au pays des licornes. Il y a une sécurité, là, évidemment, très forte autour de M. Trudeau. C'est le premier ministre. Ce qui n'est pas vrai pour les autres ministres. Puis on a vu un certain nombre d'incidents pas si lointains. Puis alors qu'à Québec, chaque ministre a le droit à un chauffeur qui agit en même temps comme un constable spécial, là, pour assurer la protection, les ministres fédéraux, c'est pas le cas. Pour certains événements, oui. Puis là, on nous dit, ah, mais vous savez, ça va coûter trop cher, puis on n'a pas les moyens. Jusqu'au jour où il va arriver quelque chose, puis là, on va se dire, ben là, bon, peut-être qu'on aurait dû. Et M. Trudeau, là, c'est un chef de gouvernement, puis il y a cette protection. François Legault à Québec, là, je regardais à Amcou hier, là, il y en avait 4, 5, 6 autour de lui. Puis c'est normal. Mais les ministres du gouvernement libéral auraient droit à une protection dans un environnement qui est assez intense, on le sait, là, avec des décisions qui sont prises, puis avec, disons, ces machines à fausses nouvelles, puis à complots qui carburent, puis qui font beaucoup d'adeptes comme ça sur le web. Parlons également de la tentative de meurtre contre Leonardo Rizzuto. Beaucoup d'analyses dans les différents médias depuis hier, puis la grande question, c'est que feront les Siciliens? C'est sûr que le clan Rizzuto et la mafia sicilienne n'a plus la même force qu'avant. Quand Vito Rizzuto était le parrain de Montréal, c'était un pouvoir qu'il avait donc imposé avec son père d'abord, mais lui-même au fil des ans. Il était incontestable jusqu'à sa chute, jusqu'à ce qu'il se retrouve en prison. Mais il avait cette force pour imposer. Là, on n'est pas du tout à la même place. Et donc, est-ce que les Siciliens vont se venger? C'est à peu près certain. Qui se trouve derrière l'attentat raté? Et entre vous et moi, pour l'avoir raté comme ça, c'est quand même quelque chose, là. De viser un membre du clan Rizzuto, puis de tirer dessus, alors qu'on est dans une voiture, en plein jour, sur une autoroute, plusieurs coups de feu, et le rater. Je pense que le sous-contractant va se faire parler. Alors, qui est à l'origine de ça, on le sait pas. Puis jusqu'à quel point la réplique va venir. Alors, est-ce que c'est un conflit à l'interne? Est-ce que c'est à l'externe? On sait que Daniel Renault nous parlait hier matin de cette espèce de consortium qui existe, où on a des motards, on a des Irlandais, des Libanais, puis des gens qui font partie des différentes familles du crime organisé. On ne le sait pas, mais ce serait étonnant, parce que là, c'est une question aussi de statut, là, qu'il n'y ait pas une forme de vengeance qui s'exerce. Et on va parler avec André Cédillo ce matin, qui a écrit Mafia Inc., co-écrit, là, qui en sait pas mal là-dessus. Un article dans la presse ce matin que je trouve un peu fatigant pour des résidents des résidences sélection. Là, on apprend ce matin qu'il pourrait y avoir rupture de service. Puis là, rappelez-vous, au début, là, quand tout ça s'est effondré, on nous a dit, il n'y a pas de problème. Les gens qui habitent les résidences, c'est le syndic qui va opérer. Mais là, on apprend donc qu'il y aurait peut-être des ruptures de service parce que des filiales qui sont liées à la famille du fondateur, M. Bouclin, ne payent pas leurs fournisseurs. Et là, ça veut dire peut-être fin du câble, plus de téléphone pour des gens là qui habitent les résidences en question. Dans son rapport, Christian Bourque de PricewaterhouseCoopers donne un portrait préoccupant. Il dit qu'en plus des perturbations potentielles dans certains complexes, Sélection perd des millions chaque mois et les démarches du fondateur Bouclin pour tenter de récupérer des actifs avancent lentement et plus que lentement. Des fournisseurs comme Vidéotron et Bell auraient soit déposé des procédures de recouvrement ou menacé de couper le service. Puis là, ce sont des gens qui payent chaque mois le prix du loyer puis tout ce que ça comprend. Et faut garder un œil là-dessus, là, parce qu'il y en a beaucoup de résidents dans ces maisons du groupe Sélection. Et on sait qu'il y a une bataille juridique là, entre Bouclin et la firme qui gère ça. Aussi, ce matin, on va parler des banques. Hier, opération sauvetage, on n'a pas vu ça souvent, pour ne pas dire jamais, là, où vous avez les grosses banques américaines qui ont pris 30 milliards puis qui ont dit on va mettre ça dans une banque qui en arrache. La First Republic Bank, qui est une banque, disons, de taille assez inférieure par rapport aux autres. Là. Et là, c'est parce qu'on veut éviter l'effet domino. Ça a commencé, là, en quelques jours seulement, à se transformer. Ça a commencé par la banque Silicon Valley. Il y a une autre banque dimanche dernier. Puis là, arrive une banque. Puis c'est quoi, vous pensez, la réaction des gens? Toi, t'entends parler que ton institution financière a un genou au sol, que ça va pas très bien. Tu veux-tu laisser ton argent là? T'as beau entendre les discours rassurants. Et surtout, je le disais hier un peu à la blague, mais les experts, les analystes qui veulent rassurer les gens sont les premiers à s'inquiéter. Puis on l'a vu que le Crédit Suisse, ça s'effondre, ça repart vers le haut. La First Republic, quand l'annonce, une entente qui s'est faite en 48 heures a été confirmée, ben c'est reparti également vers le haut. On va parler du port de Montréal ce matin, les vols de voitures. C'est pas nouveau, là, il y en a toujours eu. Puis le port de Montréal, c'est une passoire. Et les conteneurs arrivent avec des voitures à l'intérieur. Puis on le sait qu'il y a une forme de mafia dans le port. Mais ça, faut pas trop le dire. Sauf que ça devient frustrant pour beaucoup d'automobilistes. Puis il y en a des vols en quantité. Pas, évidemment, toujours pour l'exportation, mais il y en a beaucoup. Puis ça se traduit par des augmentations d'assurance. Un mot également sur le livre de Ginette Renault. Les libraires qui sont pas contents parce que son livre ne sera pas vendu dans le circuit habituel des librairies. Ce sera plutôt vendu dans les gens coutus et en ligne. Et le partenaire d'affaires de Ginette Renault, Nicolas Lemieux, dit que c'est un modèle actuel là, qui rapporte pas assez d'argent aux auteurs. Et dans ce sens-là, il a raison. Là. Souvent, l'auteur d'un livre, là, 10% du prix du livre, tous les autres intermédiaires là, pigent dans la caisse. Puis j'enlève rien aux libraires, là. Je dis pas qu'ils n'ont pas un travail à faire. Mais je me souviens de Marie Laberge, là, qui est arrivée avec ses lettres à un moment donné, qui a dit « Moi, c'est fini. » Pour un certain temps, je m'adresse directement à ceux et celles qui ont envie de payer pour mes livres. Alors, c'est sûr que ça dérange. Puis pour être très transparent, j'ai fait une entrevue avec Ginette Renault que vous allez voir à TVA dans quelques semaines à partir de son livre. Mais au-delà de ça, c'est vrai que ce modèle d'affaires-là, il est peut-être contestable aussi. Puis il y a peut-être des façons de faire qui doivent être revues en 2023. Et un mot également pour vous dire que dans Le Devoir ce matin, on parle du lait pour bébé, du fameux lait donc maternisé en poudre qui se fait de plus en plus rare. Puis il y a beaucoup de parents, c'est moins pire que c'était là, mais il y a beaucoup de parents qui ont bien de la difficulté à en trouver.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
On vous a raconté un peu plus tôt cette semaine l'histoire d'une femme, une personne âgée qui s'est fait voler par son fils. Le fils est un employé de la ville de Laval, c'est un col bleu et il s'appelle Michel Brassard. Puis il a été condamné par un juge à rembourser, vous allez voir les détails, une préposée aux bénéficiaires qui avait constaté dans quel état la pauvre femme âgée se trouvait. Elle a été négligée par son fils. Et non seulement il a négligé sa mère, mais en plus, il l'a volée. Il a volé 30 000. 30 000 pour faire quoi? Des dépenses. On vient de parler avec Pierre-Yves, là, de ceux qui se lancent comme ça dans l'achat de, je sais pas moi, de véhicules récréatifs, de motoneige, de bateaux. Puis lui, il s'est dit, m'en faire la belle vie, puis je vais prendre l'argent. Et ma mère n'y verra que du feu parce qu'elle est malade. Le monsieur avait une procuration. Et puis ce matin, je vais insister sur le rôle joué par cette préposée aux bénéficiaires. Et c'est important de souligner, j'allais dire, des gestes posés comme celui-là. Elle s'appelle Sylvie New. Elle est préposée aux bénéficiaires. Et disons qu'elle a joué un rôle majeur auprès de la victime. Et à l'époque, donc, ça se passait à la villa La Châtelaine à Mascouche. Madame New, bonjour.
Bonjour, bon matin.
D'abord, je veux un peu apprendre à vous connaître. Vous êtes préposée aux bénéficiaires depuis quand? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Puis pourquoi vous faites ce métier-là?
Pour l'amour des personnes âgées, je veux dire, ils étaient là avant nous. Ça fait que c'est bien important qu'on prenne soin d'eux.
Puis vous faites ça depuis longtemps?
Depuis 5 ans à peu près.
OK. On va prendre l'histoire de Madame Charbonneau. C'était quelqu'un, donc, qui habitait à la villa en question. Si vous me parliez un peu d'elle, quel genre de femme, comment était-elle, peut-être nous la décrire un peu.
Parfait. Moi, quand je l'ai connue, elle était très recroquevillée sur elle-même. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle avait comme une barrière tout autour d'elle. On ne pouvait pas l'approcher. Pas du tout. Ça m'a pris quelques mois avant que je puisse commencer à l'approcher. C'était déplorable. Elle n'avait pas de meubles dans sa chambre. Ses vêtements ils étaient délabrés. Ses cheveux ils étaient très longs, mais pas de coupe, on n'avait pas de sous dans la caisse pour la coiffeuse. Ses dents étaient trop grands pour elle. Elle n'avait pas de batterie pour ses appareils auditifs. J'avais la misère à me faire comprendre. Mon Dieu. son hygiène.
Oui, c'est ça. Là. Vous arrivez dans cette ville-là, puis vous constatez qu'elle est négligée. C'est-à-dire qu'il y a visiblement personne qui s'occupe vraiment d'elle. Il y a pas
elle n'a pas de visite, non.
Pas de visiteur, là?
Non, pas du tout.
Saviez-vous à ce moment-là qu'elle avait un fils?
Non, j'ai laissé longtemps plus tard ce qu'elle avait fait. J'ai essayé de l'appeler, mais on n'avait jamais de retour d'appel, soit pour l'appeler pour des batteries, pour des appareils, quoi que ce soit. J'avais jamais de retour d'appel, ni moi, ni les infirmières.
À ce moment-là, donc, elle parlait peu, vous aviez peu d'échanges avec elle?
Oui, beaucoup peu de chance parce qu'au début, elle est très, très sauvage. J'avais besoin de l'approcher. Puis une journée, il est arrivé quelque chose, puis il y a un déclencheur qui s'est fait. Et puis c'est là que j'ai commencé à la prendre en charge.
OK, qu'est-ce qui est arrivé cette journée-là?
J'ai réussi à l'embarquer, aller dans la salle de bain avec elle pour faire son hygiène. Et elle était en hystérie, elle hurlait. Puis à un moment donné, je me suis mis à pleurer. Puis là, j'ai fait comprendre que moi, j'ai fait ça pour elle par amour. Je voulais redonner sa dignité. Et puis c'est là qu'il y a eu un déclencheur.
Puis quand vous dites un déclencheur, là, qu'est-ce qui s'est passé?
Mon Dieu, elle s'est mise à me regarder dans les yeux, plus me parler. Le regard, comme mon Dieu, c'était tellement touchant. Là, elle a vraiment changé du jour au lendemain.
Puis elle s'est ouverte un peu plus, elle vous a parlé?
Oui, elle me parlait, on riait, on mettait de la musique. J'essayais de l'amener dans un autre monde, puis en même temps, pour lui redonner la dignité qu'elle avait droit.
Puis vous vous êtes rapproché d'elle en faisant ça.
Oui, ben je prenais ça comme ma mère.
Puis là, vous l'avez dit tantôt, remarqué là, que la petite caisse pour elle était vide.
Elle était complètement vide.
Il n'y avait pas de bien, il n'y avait pas personne qui la visitait.
Non.
Puis vous avez décidé de prendre votre argent pour lui acheter des choses.
Ben, en réalité, ça a commencé quand j'ai commencé à vouloir lui parler ou la faire chanter. Ses appareils auditifs, les batteries étaient plus fonctionnelles, fait que j'arrivais pas à le faire comprendre. Ses dentiers étaient trop grands. Fait que j'ai acheté de la colle. Fait que c'est là que j'ai vu qu'il y avait vraiment un gros problème.
OK, mais vous avez pris votre argent pour payer les
oui.
trucs.
Oui.
Qu'est-ce que vous lui avez acheté?
Oh mon Dieu, des collations, des biscuits, des vêtements, du parfum, de la poudre, de la crème pour le visage, des brassières, surtout les brassières.
OK, vous avez dépensé combien pour elle, le savez-vous?
Non, pas vraiment. C'est le juge qui me fait ce petit cadeau-là, mais je sais pas le montant. Ça a duré comme un an et demi.
Ben, le juge a évalué ça à peu près 1000 $.
Oui, c'est ça.
OK. Vous êtes pas bien riche, là, vous, là. Vous avez pas un
non.
immense salaire, là. Vous, tu sais, une préposée aux bénéficiaires, ça gagne combien, ça?
16 $.
16 $ l'heure?
Ça serait.
Okay.
De 16 à 20, je dirais.
Mettons 20, là. OK, 20 $ de l'heure, puis tout ça. Puis vous avez pris quand même de l'argent de votre poche
oui.
pour lui acheter
oui.
ça?
Oui. Parce que. Je crois que tout le monde a besoin d'une dignité, puis je voulais que la fin de ses jours, qu'il lui reste, qu'elle trouve de bonheur. Si c'était mon rôle, ben, c'était correct.
Mais si vous n'aviez pas été là, ça aurait été l'enfer pour elle. Puis probablement
oui.
qu'on n'aurait pas réalisé ce qui se passait avec le fils, là.
Non, pas vraiment. Non. Puis en même temps, je voulais dire merci à tout le coroner, les avocats, même les policiers qui ont fait des recherches. Vraiment, là, c'était un travail exceptionnel.
Mais comment on s'est rendu compte? Comment vous avez compris, là, vous, surtout, que le fils, il pigeait dans la caisse, là, puis que le fils prenait l'argent de sa mère puis s'occupait pas d'elle, pantoute?
Mais en réalité, c'est aucune infirmière, ni moi, on était capable de le rejoindre. C'est vraiment incapable. Fait que en dernier, quand elle est tombée plus à Maldésie, il a fallu qu'on la change de place à CHLD. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il manquait des sous. Parce que nous, on était un centre privé.
OK. C'est là qu'on a vu qu'il avait profité
oui.
de sa mère pendant qu'elle était malade.
Exactement.
Qu'elle n'allait pas
oui.
bien.
Qu'elle n'allait pas bien.
Est-ce qu'on peut vous dire bravo pour ce que vous avez fait? Parce que.
Merci.
Non, mais c'est une implication d'abord. Puis vous lui avez redonné un certain goût de vivre, peut-être.
Oui.
Puis vous avez en plus pris votre argent, vous qui êtes pas riche, pour au moins lui donner un peu de dignité dans ses derniers moments de vie.
Oui, mais elle me l'a tellement rendu à 1000 fois.
C'est vrai?
Oui, elle chantait. C'était tellement drôle de la voir. Elle me l'a vraiment bien rendu.
Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous ce matin. Encore une fois, bravo.
Ben, je vous remercie beaucoup, M. Arcand.
Vous êtes inspirante. Merci à vous.
Ah, merci. Bonne journée.
Au revoir. Sylvie New, elle est préposée aux bénéficiaires. Quand vous lisez le jugement, il y a toute une leçon de vie dans ça. D'abord, l'abus de personnes âgées. Ça, c'est un cas flagrant d'un employé qui fait 70 000 par année, qui travaille, là, bel job à la ville de Laval. Mais il dépense. Puis il en a toujours besoin de plus. Puis il dit, tiens, ma mère est malade, elle est confuse, elle verra rien, va me servir. 30 000 $, c'est ce qui a été évalué. Mais il arrive dans la vie de Lucienne Charbonneau, c'est elle dont on parle, une infirmière, une préposée aux bénéficiaires, quelqu'un qui intervient, puis qui se rend compte d'abord qu'elle est à l'abandon, qu'elle est négligée, puis que ça n'a pas d'allure. Puis qu'il faut faire quelque chose. Mais plus que ça, Mme New a pris de l'argent dans son compte de banque pour lui acheter des biens de première nécessité, là. Tout ça pour lui redonner de la dignité. Puis en plus, la faire chanter. Vous me direz comment ça se fait que dans la résidence, ils n'ont pas vu ça, pourquoi ils ne sont pas intervenus. Je ne le sais pas, là. Mais elle est intervenue. Elle a dit ça n'a pas d'allure. Puis le fils ne répond pas. Le fils est en train de dépenser l'argent de sa mère. Et le fils devra rembourser Mme New pour un montant de 1000 $. Et cette histoire de maltraitance s'est amorcée en 2019. Je vous le dis, il y a beaucoup de leçons de vie dans ça. Et des gestes comme ceux posés par Mme New, il faut mettre le projecteur là-dessus. Parce que ça montre le côté, pour une fois, je dirais, extraordinaire de la nature humaine. Il y a des gens qui sont bienveillants, ils ont ça dans leur ADN, puis elle aurait pu se contenter de faire son travail, puis dire, ben c'est comme ça. Non, elle s'est dit, m'en faire plus. Alors on lui dit encore une fois bravo. Sylvie New, préposée aux bénéficiaires. Hier matin, on vous a raconté l'histoire de Pascal Leroy qui s'est fait voler son véhicule. Son véhicule était stationné dans un stationnement d'hôtel tout près de l'aéroport Trudeau. Et quand il est revenu de vacances, premier constat, le véhicule n'est plus là, puis il y a un traceur qui lui permet de découvrir que son véhicule, qui est un camion là, qui vaut plus de 100 000 $ GM, est dans le port de Montréal. Les policiers ont refusé d'y aller en disant on n'est pas en mesure d'aider. La GRC a dit non, on s'occupe pas vraiment de ça. Et le véhicule a été donc placé dans un conteneur, il est resté là plusieurs jours, et finalement, il a été localisé à Dubaï, où il a été démonté et vendu en pièces détachées. Il y a beaucoup, beaucoup de vols de véhicules dans la grande région de Montréal, puis la question que vous nous posez depuis hier, coudonc, comment ça se fait qu'on peut être aussi... qu'on a aussi facilement accès au port, puis qu'on est capable, comme ça, de mettre des véhicules sur des bateaux, puis de les envoyer à l'étranger. Pour en parler, Daniel Dagenais, qui est vice-président à la performance portuaire et au développement. Monsieur Dagenais, bonjour.
Bon matin, monsieur.
Bon, d'abord, est-ce que c'est si facile que ça d'entrer des véhicules volés sur le terrain du port?
Non, c'est pas aussi facile que ça. Mais d'abord, je veux surtout vous remercier de nous donner l'opportunité un peu de rétablir certains faits et aussi expliquer un peu le rôle de tous dans cette histoire. Mais vous savez, le travail du port est essentiellement de garder la sécurité autour de notre territoire, soit par la patrouille, mais aussi des clôtures, des caméras. Et puis, ce que j'ai entendu hier dans votre reportage, c'est un cri du cœur, en fait. On se sentait tous un peu mal pour lui, puis on a...
OK, mais je suis bien d'accord avec vous, là, mais moi, j'aimerais qu'on regarde les faits, là.
Oui.
OK, il y a des véhicules volés qui entrent dans le port de Montréal.
Oui, il y a des véhicules volés qui sont saisis sur le territoire du port de Montréal et ils sont saisis principalement par la douane et les policiers.
OK, mais il y a des véhicules volés qui entrent et qui sont pas saisis et qui se retrouvent sur des bateaux et qui s'en vont à l'étranger.
Il y a des véhicules volés qui rentrent dans le port de Montréal dans des conteneurs qui échappent au contrôle des douaniers et de la police, effectivement, okay. Vous avez raison.
Je veux savoir, juste avant de parler de votre rôle, je veux savoir comment ces véhicules-là entrent, les véhicules volés entrent dans le port de Montréal.
Vous savez, il y a personne qui... En fait, il y a des déclarations de douane pour l'exportation. Il y a toute une mécanique pour exporter des marchandises à travers le Canada, dans tous les ports canadiens. Les contrebandiers utilisent toutes sortes de subterfuges pour naturellement masquer leurs opérations. C'est le travail d'abord et avant tout de la police de, un, saisir du renseignement pour cibler ces marchandises-là. Et les douaniers aussi, par les déclarations, de faire un travail de repérage pour ultimement capter ces voitures lorsqu'ils sont en transit. Parce que vous l'avez très bien saisi, puis vous l'avez mentionné un peu plus tôt, les vols de voitures ont lieu autour du port de Montréal, dans les stationnements, dans votre cour d'entrée, dans des stationnements d'hôtels, entre autres. Et donc, ils transitent à travers nos installations. Si vous me demandez, quel est le travail qui est fait au quotidien par les employés du port de Montréal, les douaniers et la police, on travaille tous ensemble. En fait, notre rôle, c'est de travailler tous ensemble. On a tous un mandat. La législation est relativement claire à l'effet que les douaniers seuls sont capables de faire les inspections à l'intérieur des conteneurs pour aller chercher et détecter ces marchandises volées-là. Et elles le font avec le concours de la police.
OK. Question simple. Mettons que vous avez un véhicule, puis là, vous vous rendez compte que votre véhicule a été volé, vous avez un traceur.
Oui.
Puis que votre traceur vous indique que votre véhicule est dans le port de Montréal. Qu'est-ce que je dois faire?
Bien, je pense que M. Roy a fait les bonnes choses. Malheureusement, il a reçu des mauvaises informations.
Ça n'a rien donné.
Non, tout à fait. Puis j'imagine qu'il y aurait tout un questionnement à faire auprès de la police parce que la personne ou l'officier qui a répondu à M. Roy n'a pas donné la bonne information. La réalité, c'est que les policiers entrent au port de Montréal puis exécutent leur mandat et leur rôle, soit des mandats de perquisition, des saisies ou même des états d'arrestation pour, des infractions au code de la route.
Il faut que ça soit clair. Il n'y a rien qui empêche la police de Montréal d'entrer dans le port de Montréal.
Absolument pas. En fait, les policiers qui travaillent au port de Montréal ont exactement une carte exactement comme la mienne et puis on contrôle l'accès des policiers comme des douaniers.
La GRC peut entrer dans le port de Montréal?
Absolument. Donc, il y a un concours, il y a un travail, en fait, de collaboration entre tous ces corps de métiers-là. C'est vrai dans ce qui a été affirmé hier. Effectivement, la GRC ne travaille pas directement sur les voitures volées. C'est un rôle qui a été qui est laissé essentiellement au SPVM.
OK. Je comprends ce que vous me dites.
Oui. Fait que là, je reviens sur votre question de traceur parce que j'ai pas perdu votre idée de traceur.
OK, répondez-moi.
Donc, je trouve ça intéressant parce que c'est une situation où on sait que le véhicule est là, qu'est-ce qu'on fait?
Mm-hmm.
Fait que donc, Monsieur Roy a contacté la police, a contacté la GRC, puis en fait, j'admire sa persévérance parce que clairement, quand il nous défile l'histoire, ça a duré sur des heures, puis je peux comprendre l'angoisse, puis il sait que le conteneur est là, il sait que la marchandise est à l'intérieur. Je pense que ce qu'il faut saisir, c'est la taille du port de Montréal, qui est pas vraiment connue. Vous savez, à tout moment, au port de Montréal, il y a plus de 30 000 conteneurs à l'intérieur de nos installations. Il y a 100 milliards de dollars de marchandises. Donc, traverser la clôture avec son traceur, je connais pas vraiment la précision de l'appareil, mais c'est pas une tâche aussi simple que ça pourrait paraître de l'autre côté de la clôture sur le côté, si on veut, de la rue Notre-Dame. Une fois ceci étant dit, ça ne veut pas dire que la technologie n'existe pas, j'en sais rien, mais c'est sûr qu'une fois qu'il a traversé de l'autre côté,
c'est un travail... Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la police de Montréal aurait dû s'en occuper. C'est dans sa cour.
La police de Montréal doit enquêter les clauses de vol, oui, les délits, effectivement.
OK. L'autre question, puis j'entends ça depuis hier, là, puis je dirais même depuis longtemps. Est-ce qu'il y a une présence du crime organisé dans le port de Montréal? Je ne sais pas ce qu'il y a de drôle.
Ben, je la trouve drôle parce que, vous savez, c'est pas assez comique, en fait. Vous savez, moi, ça fait 40 ans que je travaille au bord de l'eau.
Mm-hmm.
Depuis que je suis adolescent. J'ai à peu près fait tous les métiers. J'ai vu le port évoluer avec le temps aussi. Les mesures de sécurité, les caméras, les clôtures, la patrouille. Il y a des mécanismes en place hyper sophistiqués. Sachez que faire la collecte ou la livraison de marchandises au port de Montréal exige la présence de biométrie. Donc, on vérifie l'identité des gens. Constamment. Fait que donc, la présence du crime organisé, moi, je vous dirais qu'a priori, je peux comprendre que ça se passe, mais je ne l'ai jamais véritablement vu.
OK, mais dans tous les ports, dans toutes les villes du monde, le crime organisé, sous une forme ou sous une autre, contrôle partiellement, un peu plus, un peu moins, un peu beaucoup, un port. Montréal n'est pas une exception. Vous n'avez peut-être pas vu Vito Rizzuto se promener dans le port, mais il y a peut-être des gens d'une filière criminelle qui arrive à contrôler du personnel, à avoir des accès, à entrer dans le port, puis à avoir de la complicité à l'intérieur. Ça peut exister, puis vous avez peut-être rien vu, ça se peut aussi.
Non, mais je dans votre affirmation, vous dites ça peut exister, puis je pense que l'histoire le prouve qu'effectivement, il y a eu des gens qui ont été ciblés, il y a des mises en accusation, et il y a eu des gens qui ont été condamnés. Fait que donc, prétendre qu'il n'y en a pas, ça serait l'hérésie, puis ce ne serait pas tout à fait juste. En contrepartie, je vous dirais que tout le crime organisé se passe de façon très camouflée. Puis donc, le retrouver, c'est le travail d'abord et avant tout de la police, de la douane et de la GRC aussi, de retrouver tout ça. Ce que nous, on fait, c'est de faciliter l'observation, faciliter le contrôle d'accès, pas le contrôle d'accès, mais en fait, faciliter la prise d'informations pour l'accès au port de Montréal pour construire de la preuve, faire des filatures, construire des enquêtes, puis assister les corps de police.
Okay. Monsieur Dagenais, ce que je retiens de ce que vous me dites, là, en gros, là, vous dites, nous autres, on aide la police, on leur ouvre la porte s'ils veulent entrer, mais que le port, c'est tellement gros, il y a tellement de conteneurs, qu'il y ait des véhicules volés là-dedans, c'est bien probable, mais si votre véhicule est dans le conteneur, c'est peine perdue, là, il va prendre la route de l'étranger.
Écoutez, je pense que ce qu'il faut retenir, surtout, c'est que c'est pas aussi simple que ça de
détecter. Il y a eu combien de saisies l'an passé dans le port de Montréal pour des véhicules volés?
Je ne pourrais pas vous le dire.
Mais il y en a-tu?
Non. Oui, il y en a eu des saisies, mais on ne nous informe pas du nombre de véhicules saisis. Ça fait partie de l'enquête et ça fait partie du travail de la police.
La police vous dit pas combien ils ont saisi de véhicules volés dans votre port?
Non. Ils n'ont pas tenu de nous le dire.
OK, mais vous êtes vice-président à la performance portuaire et au développement.
Oui, oui.
Mais avez-vous vu des saisies? Avez-vous été témoin de la police qui ramasse des conteneurs d'auto-volés?
Fait que donc, il y a, ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'il y a des conteneurs aussi qui sont retirés pour être inspectés. Il y a des conteneurs qui sont inspectés sur le site. Donc, on voit les véhicules qui sont inspectés. Il y a des conteneurs qui sont inspectés dont les véhicules sont légitimement exportés à l'extérieur du pays. Et ces conteneurs-là continuent. En contrepartie, ceux qui ne devraient pas être exportés parce que ce sont des véhicules volés sont saisis immédiatement. Fait que donc, si vous me posez la question, est-ce qu'il y a eu des saisies? Absolument. On est conscient qu'il y a eu des saisies.
Mais vous connaissez pas l'ampleur de la présence de matériel volé, de contrebande à l'intérieur du port?
Non, pas nous.
Voulez-vous le savoir?
Absolument. Ça nous intéresse de comprendre.
Allez-vous le demander?
On l'a demandé.
Écoutez, ils l'ont pas donné?
Notre préoccupation pour cette filière-là, elle date pas des dernières 12 ou 24 heures, là. Ça fait des années qu'on travaille avec le Bureau d'assurance du Canada pour un peu comprendre la problématique, mais aussi les aider aussi à construire, en fait, une meilleure compréhension de le rôle des joueurs clés dans cette affaire-là.
C'est parce que, puis c'est pas dans votre cours, là, mais ce qui est frustrant beaucoup pour un propriétaire de véhicule, c'est que, d'abord, les véhicules coûtent cher. Deuxièmement, souvent on va exiger qu'il y ait un traceur et pour être assuré. Puis que même si on trace le véhicule, moi je me rends compte qu'il n'y a pas grand-chose à faire.
Monsieur Arcand, moi je vous dis, si vous me demandez elle est où la solution pour aider, d'abord et avant tout, je pense que c'est un très bon moyen dissuasif d'inspecter les conteneurs et de les saisir au port de Montréal ou à tout autre port ou à tout point d'exportation. Par contre, je pense qu'on doit travailler d'abord et avant tout en amont où les véhicules sont garés et où ils sont des proies pour la criminalité. Parce qu'au-delà de l'exportation, il y a tout le...
Mais je mets pas tout ça dans votre cours, là. Je suis bien d'accord, là.
Je suis d'accord avec vous.
Mais en même temps, moi, là, c'est mon auto. Je sais qu'elle est dans le port de Montréal. Puis personne peut rien faire. C'est un peu frustrant.
Absolument. Et c'est la raison pour laquelle on a accepté votre invitation de nous parler ce matin. Parce qu'on sent, j'ai moi aussi, ça m'a pincé hier, là.
Des fois, je me demande, à une époque, on disait que la gang de l'Ouest contrôlait le port. À une époque, on disait que les Irlandais contrôlaient le port. Je vois aux États-Unis des contrôles par des familles new-yorkaises. Me dit, il doit y avoir quelqu'un qui contrôle le port de Montréal.
Ben écoutez, je pense qu'il faut faire la part des choses là. Les ports aux États-Unis et les ports canadiens sont un petit peu différents en termes de fonctionnement. Et puis, deuxièmement, vous savez, comme je viens de vous répéter, moi, ça fait 40 ans que je travaille au bord de l'eau. Les gens qui travaillent au port de Montréal, c'est des pères, des mères de famille, comme que je connais très bien. Si vous me demandez, est-ce qu'il y a des pommes pourrites là-dedans, des informateurs, des collaborateurs, absolument. Puis il faut les poigner, puis il faut les attraper, puis il faut les mettre de côté.
Monsieur Dagenais, merci d'être venu ce matin.
Merci à vous.
Daniel Dagenais est vice-président à la performance portuaire et au développement, donc au port de Montréal.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
La nouvelle a été officialisée hier, mais bon, on le sait tous que Mario Cecchini allait devenir le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est avec nous ce matin. Mario, bonjour.
Bonjour, Paul.
Bon, évidemment, je le disais, l'annonce a été... d'abord, ça a été une fuite, puis là, ça a été confirmé hier. Première question... Pourquoi tu as un intérêt ou pourquoi tu avais un intérêt à devenir commissaire de la Ligue de hockey junior majeur?
Ben écoute, je te raconte rapidement, j'ai eu un appel le 23 décembre, les Alouettes étaient terminées le 19. Et puis quelqu'un me dit tout simplement, écoute, je pense que tu serais parfait pour ce rôle-là. Wow! Alors un peu comme toi, je me dis OK, puis là, une longue conversation avec cette personne-là qui est proche de la Ligue pour comprendre les défis. Puis les défis, ben, me rejoignent. Beaucoup de défis de faire valoir cette ligue-là, de montrer les bons coups. Puis là, au fur et à mesure qu'arrive le mois de janvier, le mois de février, ben toutes les mauvaises nouvelles, si on veut, commencent à sortir. Et puis moi, ça m'a pas découragé. Je me disais encore plus, il y avait une notion là de le rôle devenait quasiment et ça va prendre une implication sociale. C'est un rôle que c'est des éléments qu'il faut corriger, c'est des changements de mentalité. Alors ça a grandi en moi de cette façon-là, puis je l'ai raconté hier un peu, mais j'ai ma fille qui, après avoir raccroché de cet appel-là, qui m'a regardé et m'a dit « T'as toujours voulu travailler avec les plus jeunes, travailler avec la jeune génération, c'est ta chance. » Alors c'est comme ça que ça s'est fait, puis les défis sont importants. Et puis, regarde, on va tout faire pour les relever.
Quand je regarde la Ligue de hockey junior majeur, il y a comme, pour moi, deux mondes. Il y a une période où c'est vrai là que ça a été marqué par des bagarres, puis ça a été marqué par des gestes pas très intelligents, puis qu'il y a des jeunes qui s'en sont pas peut-être remis, qui ont été, disons, marqués par ça. Mais en même temps, il me semble que depuis les dernières années, le souci des études, des règlements plus sévères, il y a moins de bagarres. Il y a comme deux mondes. Le problème, c'est que le vieux monde est réapparu récemment.
Ah ben, c'est une très belle façon de décrire cette situation-là. Alors, M. Courteau, en commission, a été percutant, je pense, avec une phrase, Paul, lorsqu'il a mentionné qu'il faut que la parole se libère. Alors ça... C'est à ce point-ci, quand les choses ne viennent pas sur le bureau du commissaire ou du président, dans n'importe quel bureau, si ça ne se rend pas, tu ne peux pas agir. Là, je pense que l'invitation a été lancée par Gilles. Alors, les gens qui souhaitent peuvent venir de l'avant. Ceci étant, tu as raison. Ce qu'on a beaucoup escamoté depuis un mois environ, évidemment, c'est tout ce que la Ligue fait de très bien. Les batailles, la Ligue a commencé à faire ça depuis 10-12 ans dans les chiffres que moi j'ai vus, là, qu'on m'a fournis. Je pense qu'on partait en 2011. Aujourd'hui, en moyenne, il faut voir 10 matchs pour voir une bataille. Sauf erreur, Paul, tu me corrigeras après vérification, mais on m'a dit hier que dans tous les matchs à Québec cette année, les Remparts, il n'y a pas eu une bataille. Puis c'est intéressant parce que je mentionne Québec parce que c'est l'équipe qui attire le plus de spectateurs. Alors, toute la notion de dire les batailles attire les gens. Les gens veulent voir du bon hockey et l'encadrement scolaire.
OK, mais.
L'encadrement scolaire, ça a été fulgurant comme progression.
Bon, mais un des premiers grands défis, c'est de s'entendre avec la ministre Isabelle Charest, là. C'est un secret de polichinelle qu'entre elle et Gilles Courteau, ça ne marchait pas, là. Il n'y avait pas d'atome crochu, notamment sur le dossier des bagarres. Bon, je sais que la Ligue arrive avec une proposition, peut-être pas si loin de ce que le gouvernement souhaite. Mais ce que Mme Charest dit, puis elle nous l'a répété la semaine dernière, elle dit « Je veux que quelqu'un qui se bat soit expulsé, que la sanction soit ultime. »
Alors, Paul, on voit d'ailleurs, au niveau des relations, d'abord, j'ai eu la chance d'être invité par Mme Charest. Donc, on va se rencontrer d'ici la fin mars, je pense. Il reste le 30 ou le 31 mars. Alors ça, on va se voir pour discuter de ça. Et lorsque tu dis qu'on est proche, je pense qu'effectivement, sur l'ensemble, la Ligue l'a déjà dit, c'est déjà décidé. La mécanique, pour ceux qui connaissent le hockey, là, c'est la notion d'instigateur ou d'agresseur versus le joueur qui peut-être jette pas les gants, veut pas se battre, se protège un peu. Peut-être que dans cette situation donnée, l'arbitre arrive 6-7 secondes après. Puis peut-être qu'après 4 coups de poing, ce jeune-là décide peut-être de répliquer une fois. Et c'est des mises en situation qu'il faut juste discuter, aller au fond. Moi, j'ai senti dans l'invitation Mme Charest ouverte à discuter de tout ça. Je ne dis pas qu'elle n'est pas ferme sur qu'est-ce qu'elle veut, mais je pense qu'il y a peut-être une porte ouverte pour discussion, que j'entends avoir des très belles relations qui permet les conversations avec respect, même si on n'est pas d'accord. Mais le but ultime, c'est vraiment de pas se rendre à une législation, de vraiment s'entendre et que les deux parties soient satisfaites de cette résolution-là.
Est-ce que tu penses que la Ligue de hockey junior majeur du Québec est à la même place que la Ligue de l'Ouest, par exemple, puis la Ligue de l'Ontario au sujet des bagarres?
Alors, j'étais pas au courant de ce que Alain et toi avez discuté un petit peu plus tôt ce matin, mais d'après ce qu'Alain racontait sur les Twitter que vous avez cité, c'est un peu désolant d'entendre ça. Maintenant, ça reste Twitter. Fait que ça, c'est particulier. Là, on ne sait pas qui toujours écrit. J'ai eu un contact à date avec Dan McKenzie, le commissaire de la Ligue canadienne. J'ai échangé des textos avec mes acolytes de l'Ouest et de l'Ontario.
Mais dans tout ça, ce qui a été assez troublant, c'est de voir de la correspondance de la Ligue canadienne, là, qui regroupe les trois ligues canadiennes de hockey junior, avec un groupe qui défend des jeunes joueurs aux États-Unis, puis de menacer le groupe de poursuite pour libelle, puis de refuser de collaborer, alors qu'il y a des jeunes joueurs qui jouaient dans la Ligue de hockey de l'Ouest, là, qui dénonçaient des abus en Oregon. Il y a un côté condescendant dans la Ligue canadienne, là, puis qu'on le voit dans Hockey Canada, là, on est au-dessus de tout.
J'ai promis hier à la conférence de presse au niveau des communications d'avoir d'abord une transparence et d'avoir une accessibilité, puis que tout doit se faire dans le respect. Ça a toujours été ma façon de faire de toute façon. Alors, ces comportements-là que tu décris là, à mon sens, à moi, appartiennent au passé. On se doit, puis moi, je pense toujours en tête, je pense aux jeunes aujourd'hui qui ont 13, 14, 15 ans, qui ont un talent au hockey, puis les parents qui se demandent où ils veulent jouer s'ils ont les opportunités. Ce qu'on souhaite, c'est qu'ils restent au Canada d'abord, mais c'est qu'ils restent surtout pour les Québécois, les gens dans les maritimes, que notre ligue, parce qu'on l'a mérité, devienne le choix automatique. De dire cette ligue-là nous sert bien, puis c'est là qu'on va aller. Donc, les comportements que tu décris, toute évidence, il faut que ça arrête.
Mario, merci, bonne chance.
Merci, Paul.
Au revoir. Mario Cecchini, qui est maintenant donc le nouveau commissaire officiellement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On va parler de la situation dans les banques. On a vu la semaine dernière cette banque Silicon Valley faillite. Une deuxième banque s'est ajoutée dimanche. Des appels au calme ont été lancés. Et on a vu ce qui s'est passé avec le Crédit Suisse. Il y a eu chute de la valeur, une intervention qui a ramené le titre à la hausse. Hier, une autre banque, First Republic, qui s'est retrouvée en difficulté. Et je pense pas qu'on ait vu ça souvent. En tout cas, je vais demander à mon invité. Les grandes banques américaines ont décidé d'injecter 30 milliards donc dans la First Republic pour éviter, je pense, une espèce d'effet domino. Vincent Delisle est avec nous, c'est le premier vice-président et chef des marchés liquides à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Monsieur Delisle, bonjour.
Bonjour.
D'abord, je vais prendre l'exemple d'hier, là, que les géants bancaires américains prennent 30 milliards pour mettre ça dans une autre banque, c'est la première fois que ça se fait?
Oui, c'est la première fois que ça se fait et je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens ont pris des leçons de la crise financière aux États-Unis de 2008, notamment, et pas seulement les banques avec ce qu'elles ont fait hier, mais la Réserve fédérale américaine aussi. Donc, cet effet-là, cette intervention-là des grandes banques américaines visait justement à colmater les brèches, s'assurer que la contagion ne les atteigne pas. Et ça, jusqu'à maintenant, a eu un effet assez rassurant.
Est-ce que vous pensez que ça va tenir?
Je pense que ça devrait tenir, oui, parce que ce qu'on a vu ici, d'ailleurs, les grandes banques américaines, celles qu'on connaît tous, les JP Morgan, Bank of America et autres, ont une situation qui est plus solide, un encadrement qui est meilleur que ce qu'on a pour les banques régionales américaines. Donc, d'arriver avec ce vote de confiance-là, ça assouvit les craintes sur le marché. Il y a ce que les banques ont fait hier, mais il y a ce que la Réserve fédérale américaine a fait également le week-end dernier, ce qu'elle a fait dans les derniers jours. Donc, il y a eu cet effet de rassurement de la Réserve fédérale américaine qui est venu assurer les dépôts de la Silicon Valley Bank. Et ça a eu un effet, il reste l'incertitude, mais ça a eu un effet rassurant sur le marché. Le gouvernement suisse a fait une chose similaire pour aider Crédit Suisse.
OK. Si on reprend un peu à partir du moment où on a vu la situation chez la banque de... En fait, Silicon Valley Bank, avez-vous l'impression que ça se limite, ce genre de banque problématique, à des banques très nichées, des banques régionales? Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres banques qui nous annoncent en disant « ça va pas bien, nous non plus, en raison de placements qui donnent pas les résultats, puis les déposants sont inquiets, viennent faire des retraits ». Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres banques là, qui lèvent la main, on est dans le trouble?
Écoute, on peut jamais dire jamais, mais il faut comprendre que la situation de Silicon Valley Bank, elle est différente de l'ensemble de l'industrie bancaire aux États-Unis. Silicon Valley Bank, ses clients étaient majoritairement des entreprises de petite technologie en croissance aux États-Unis. Ce segment-là, l'activité tourne au ralenti, le financement tourne au ralenti. Donc, c'est pour cette raison-là que les dépôts se sont accélérés. Et Silicon Valley Bank a mal géré l'appariement entre ses dépôts et ses investissements. Moins de réglementation aussi sur les banques régionales aux États-Unis. Un des effets de la crise financière de 2008, c'est qu'on avait resserré les conditions de crédit. On avait resserré la réglementation pour les grandes banques américaines. On les appelle « too big to fail ». On avait peut-être moins mis d'emphase sur certaines banques régionales. Alors, la situation de Silicon Valley Bank, elle est spécifique. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres cas? On va le voir. Silicon Valley Bank aussi souffre de ce qui se passe aux États-Unis depuis un an. On en a parlé beaucoup. La Réserve fédérale américaine, les taux d'intérêt ont augmenté beaucoup. On l'a vu au Canada, aux États-Unis, en Europe. Et ça amène toujours un contexte qui est plus difficile pour le secteur bancaire. Et de ce côté-là, Silicon Valley s'est fait prendre du mauvais côté.
Mais un consommateur là, qui regarde ça, puis qui, je sais pas moi, qui est membre, pas membre, mais client à la First Republic, là, il se dit, m'a sorti mon argent de là, puis je vais mettre ça dans une autre institution. Tu laisses pas ton argent là.
Absolument. Et là, vous touchez au point le plus important de ce qui provoque une crise bancaire et ce qui peut l'arrêter.
C'est la confiance.
C'est la confiance. Alors, on n'a pas vu de contagion accélérée depuis le week-end dernier. Donc, l'intervention de la Réserve fédérale américaine a calmé le jeu. Ensuite, les investisseurs se sont dit, bon, qui d'autre pourrait être à risque? First Republic Bank a été ciblé. Et avec l'apport des grandes banques américaines qui sont venues au secours pour sauver la situation, ça a quand même calmé le jeu. Les dépôts des consommateurs, on peut le voir aussi en Europe via ce qui est arrivé avec Crédit Suisse. C'est une grosse banque, là, Crédit Suisse et le gouvernement suisse.
Mais qui est dans le trouble depuis deux ans.
Qui est dans le trouble depuis deux ans. Donc, ce qu'on a vu, finalement, c'est que la traînée de poudre, on s'est dit, bon, qui d'autre peut être vulnérable? Et on a ciblé quelques banques américaines et ensuite on est allé vers Crédit Suisse qui, comme vous le mentionnez très bien, c'est pas d'hier là, que le marché est un peu incertain quant à cette situation.
Bon, là je pense à mes auditeurs ce matin qui vous écoutent là, puis qui se disent, OK, là on vient de faire de la lumière sur la Suisse, sur les États-Unis. Les grandes banques canadiennes, est-ce qu'elles sont menacées par ce qui se passe, exemple, aux États-Unis?
Je penserais pas. Et d'ailleurs, pour se rassurer, quand on regarde ce qui s'est produit en 2008, la récession mondiale qui a suivi la crise financière, bien sûr, a frappé la majorité des économies, mais les banques canadiennes étaient solides et ont très bien traversé cette situation-là. Alors, on a un cadre réglementaire qui est beaucoup plus serré, pas la même situation. Alors, je pense qu'on peut avoir confiance dans notre secteur bancaire.
OK. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de banque régionale là, ici, puis c'est pas n'importe qui peut ouvrir une banque demain matin, C'est quand même un système plus conservateur au Canada.
C'est un système plus conservateur, 7 ou 8 grands joueurs. D'ailleurs, et les dépôts mieux diversifiés. Hein, c'est pas juste des dépôts de vous et moi, d'individus, mais il y a des dépôts corporatifs. C'est un peu ça aussi le problème de la Silicon Valley Bank. C'était pas monsieur, madame, tout le monde qui avait ses dépôts à la banque. C'était des entreprises, des PME, des entreprises en croissance, en démarrage. Donc, pas la même situation, mais on a vécu une crise financière en 2008 d'une ampleur importante aux États-Unis et nos banques canadiennes étaient bien prêtes.
Merci beaucoup d'être venu ce matin. Très apprécié.
Ça me fait plaisir.
Vincent Delisle est le premier vice-président et chef des marchés liquides à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Revenons sur la tentative de meurtre contre Leonardo Rizzuto, le fils de Vito Rizzuto. D'abord, le contexte, il faut le rappeler, là, ça se passe en plein jour à la jonction d'autoroute. Il est dans son véhicule. Là où les tireurs passent à sa hauteur, ouvrent le feu et terminent sa course, donc immobilise son véhicule dans le stationnement d'un salon funéraire. Depuis ce temps, évidemment, la question, c'est qui peut avoir fait ça? Tentative de meurtre ratée, quelles sont les conséquences? Est-ce qu'il y aura une vengeance? Quel est le statut de la famille Rizzuto actuellement dans l'univers du crime organisé? J'ai pensé appeler un ami, quelqu'un qui connaît ça depuis longtemps, qui a été chroniqueur pendant 35 ans à la presse, co-auteur de Mafia Inc., André Cédillo est avec nous. Bonjour, André.
Bonjour, Paul.
D'abord, là, sur les circonstances, qu'est-ce que t'en penses, toi, de qu'on s'en prenne ou qu'on tente de tuer Leonardo Rizzuto en plein jour alors qu'il est au volant de son véhicule sur une autoroute?
Ben, disons que c'est un peu malhabile, surtout d'avoir manqué leur coup, là. Mais je veux dire, c'est typique un peu de la nouvelle génération, là. Ils passent à l'action, eux autres, rapidement. C'est pas souvent pas planifié de longue haleine, tu sais, prendre le temps de faire de la filature, de savoir les us et coutumes de la vie de la personne, tu sais. C'est plus aujourd'hui, on est dans l'ère du fast-food, hein. Donc on passe à l'action très vite. Dès qu'on a une chance, on prend la chance, justement, puis souvent ça rate. Et c'est pas nécessairement dans le meilleur des mondes pour les citoyens, là, la population, là. Puis non plus pour eux autres, parce que ce genre de ratage-là, là, ça attire la chaleur de la police davantage qu'un meurtre bien planifié.
Bon. Est-ce que le nom Rizzuto fait peur encore? Est-ce que c'est un nom et une famille qui a encore beaucoup, beaucoup de pouvoir? Ou c'est, comme on voit dans certains cas, une dynastie qui est en train peut-être de disparaître?
Ben, disons que ça fait déjà plusieurs années, au moins au milieu des années 2000, là, quand la guerre a commencé, c'était justement pour éliminer le clan Rizzuto. On se rappelle que il y a eu au moins trois groupes de mafieux, là, qui se sont attaqués au clan Rizzuto. Au départ, on se rappellera que Rinald Desjardins et Vittorio Mirarchi s'étaient alliés ensemble. Puis il y avait aussi Salvatore Montagna, mais la chicane a pris entre eux autres. Eux autres, à ce moment-là, ils s'en allaient prendre le pouvoir, là, au détriment du clan Rizzuto. Mais la chicane a éclaté entre la gang de Desjardins et de Vittorio Mirarchi. Ça a fini en queue de poisson. Puis après ça, on a eu le clan de Giuseppe De Vito, qui, lui, en voulait à mort au Rizzuto. Et ensuite de ça, le clan d'Andrew Scopa, qui s'en est pris au Rizzuto. Puis c'est lui qui a fait... Je pense que ce clan-là a fait beaucoup, beaucoup de ravages, là, pour éliminer justement les hommes influents qui étaient autour de Leonardo Rizzuto.
Alors, ça nous amène à la question suivante. Est-ce que le clan Rizzuto et, disons, les alliés ont la capacité de répondre à ce qui s'est passé cette semaine, de répondre à la tentative de meurtre?
Ben moi, je pense que les familles mafieuses à Montréal, incluant le clan Rizzuto, là, sont déstabilisées. Et c'est pour ça, ils sont pas capables de reprendre l'allure parce qu'ils manquent de leadership, ils manquent un leader. Puis Leonardo Rizzuto, on l'a vu en 2015 quand la police a mis au jour une table de dirigeants de la nouvelle génération de mafieux, là, qui s'étaient mis ensemble. Il y avait Gregory Wally des gangs de rue, il y avait Salvatore Cassetta des Hells Angels, il y avait Stefano Sollicito de la mafia de de la famille de Rocco, là, de la famille Rizzuto, et également Leonardo. Mais la police s'est mêlée de ça, ils ont été arrêtés, donc ça les a coupé les ailes pas mal. Puis dans le moment, c'est que Stefano Sollecito, qui lui avait les contacts sur le terrain, qui avait déjà, il était déjà en contact avec les Hells Angels, faut jamais oublier ça, que les Hells, eux autres sont en contrôle dans le moment, là, qui ont le haut du pavé. Donc, Stefano, c'est lui qui avait les contacts avec eux autres, mais Stefano, il est hors de combat dans le moment. Puis là, Leonardo se retrouve tout seul. Mais Leonardo, Rizzuto, il a pas le charisme. Il a pas le respect non plus du milieu puis des autres familles. Il fait pas l'unanimité au sein des autres familles mafieuses à Montréal. Donc, c'est pour ça que on peut penser que là, il y a eu un attentat contre Leonardo Rizzuto.
Là, la question que tout le monde a en tête, tu le devines, qui peut avoir commandé ce meurtre?
Moi, je pense que ça vient de l'interne, c'est-à-dire de familles qui on n'est pas capable de faire l'unanimité, de trouver un leader. On a beau gérer ça en groupe, d'avoir chaque famille peut-être a son mot à dire, mais ça prend toujours un leader. Rappelez-vous des nomades, le club élite des Hells Angels à l'époque de la guerre, ils étaient neufs là-dedans, eux autres. Puis il y avait toujours le leader, on disait toujours c'est Maurice Boucher. Il y avait toujours un leader, au moins un ou deux qui se démarquent, même si officiellement ce ne sont pas les présidents ou ils n'ont pas de titre comme tel, mais c'est eux autres. Ça prend des leaders dans une organisation, quelle que soit, là, même dans l'entreprise privée.
Dis-moi, Vito Rizzuto avait le charisme, puis il avait le pouvoir pour calmer le jeu entre des factions de crime organisé avec des motards et tout ça. Là, on a l'impression d'avoir devant nous une espèce de consortium où t'as des gens, bon, des familles italiennes, il y a des motards qui sont là-dedans, il y a sans doute d'autres gens de d'autres filières du crime organisé, mais qu'il y a personne là qui est capable d'affirmer son leadership, ce qui fait que là, c'est comme la course pour le pouvoir, là.
D'une certaine façon, oui, parce que les moteurs sont tellement dominants, eux autres, là, mais eux autres, ils veulent pas être omnipotents. Ils veulent pas être omnipotents comme l'était le Rizzuto. C'est pour ça que c'était comme une direction dictatoriale, si on peut dire, à l'époque de Vito Rizzuto. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils veulent tous avoir le gros morceau de la tarte. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dissensions entre les organisations, puis qu'on n'est pas capable de d'établir une ligne directrice qui va permettre à tout le monde de trouver son compte.
Ouais.
C'est ça.
En terminant, est-ce que tu penses qu'il va y avoir une réponse à ça, là, où on peut pas, on imagine mal les Siciliens laisser passer une tentative de meurtre contre Leonardo Rizzuto sans répliquer?
Ouais, mais moi je pense en tout cas que la famille Rizzuto elle-même, là, je ne pense pas qu'elle soit qu'elle puisse faire une riposte. T'sais. Les autres familles, est-ce que les autres familles vont se liguer ensemble pour pouvoir porter? Moi, je pense que les gros joueurs là de la famille Rizzuto, pendant des années, qui réussissaient là à imposer leur sort là, dans le sens, c'est qu'il y avait des soldats derrière. Ils en ont plus. Sont tous décédés, puis les hommes influents sont tous décédés aussi. Donc, il ne reste plus grand-chose pour riposter.
André, écoute, je te laisse le mot de la fin.
non, mais c'est ça, mais c'est difficile de prévoir aussi, mais moi, je pense qu'ils n'ont pas les reins assez solides dans le moment pour riposter.
Merci beaucoup, toujours un plaisir de t'entendre. Bonne journée.
Au plaisir.
André Cédillo, qui est, entre autres, le co-auteur de Mafia 1.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.